Bonjour à tous nos auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et aujourd'hui nous retrouvons Alison Vic-Robeck qui est notre chroniqueuse en direct des États-Unis qui nous parle des élections américaines. Bonjour Alison.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Bah ça va, ça va.
Alors Alison, comme chaque semaine, je crois que cette semaine t'as plein de choses à nous dire.
C'est passionnant franchement la politique américaine, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et là, le gros truc qui a été annoncé mercredi, c'est Obama qui a annoncé donc un nominé pour la Cour suprême des États-Unis.
Oh.
Alors, je sais que, ouais, à première vue, on n'a pas trop l'impression que ça se rapporte aux élections, mais tout est lié, tout est toujours lié en politique américaine. Ouais. Alors, il a décidé de nominer quelqu'un qui s'appelle Merrick Garland, qui vient de Chicago, qui allait à l'université de Harvard. En ce moment, il est juge en chef de la Cour d'appel des États-Unis pour le district de Washington.
Okay.
Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que il y a tout un débat autour de ce nominé parce que bon, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien juge de la Cour suprême Scalia est mort il y a quelques semaines.
Oh,
et depuis, en fait, tous ceux qui suivent un peu les élections se disent bon, est-ce que ça devrait être à Obama de choisir le prochain nominé pour la Cour suprême des États-Unis, ou est-ce qu'on devrait attendre la fin des élections et voir qui sera le prochain président?
Oh.
Alors, c'est un peu ça.
Ok.
Voilà.
C'est toujours le président, en tout cas, qui appointe le président de la Cour suprême?
Toujours.
Ok.
Et en fait, techniquement, ça devrait être Obama qui le fait, parce qu'il a encore un peu moins d'un an maintenant avant la fin de son mandat. Normalement, ça prend pas un an pour mettre en place quelqu'un à la Cour suprême. Donc, enfin, en tout cas, du côté, pour pas prendre parti, mais du côté démocrate, c'est ce qu'on dit, du côté des républicains, on dit oui, mais bon, là, c'est un peu compliqué, c'est des élections, c'est pas habituel qu'on ait besoin de choisir quelqu'un de nouveau pendant une période d'élection.
Ouais.
Et donc là, ce qui est intéressant, en fait, avec tout ce processus, c'est que normalement, le président nomine quelqu'un. Après, cette personne passe une série d'entrevues, si on veut, entre guillemets, avec un comité spécial. Et ensuite, le candidat est confirmé par le Sénat.
Oh, d'accord.
Et en ce moment, le Sénat est plutôt républicain. Et les républicains ont dit qu'ils n'allaient pas confirmer la nomination de M. Garland. Donc, énormément de tensions autour de ça. Tous les candidats se sont exprimés là-dessus. Tous les républicains ont plus ou moins dit qu'il faudrait attendre, que de toute façon, le Sénat a le droit de refuser une nomination, ce qui est complètement vrai. Du côté des démocrates, on dit que bah, non, c'est à Obama de le faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que à cause de tout ce débat, Obama a un peu changé. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ce qu'on dit un peu couramment, qu'il aurait été un peu influencé, parce que tout le monde pensait qu'il allait nominer quelqu'un d'autre, qui s'appelle Srinivasan, qui est un autre juge, mais il aurait choisi à la place Merrick Garland pour justement avoir un nominé qui fasse un peu plus l'unanimité.
Oh.
Et malgré ça, apparemment, ça n'aurait pas porté ses fruits.
Waouh. Donc, les républicains, eux, qu'est-ce qu'ils proposent pour l'intérim? Ce serait de mettre quelqu'un d'autre en place en attendant ou comment ça se passerait?
Bah, les républicains proposent d'attendre,
d'attendre
qu'on ait un nouveau président, évidemment républicain, c'est ce qu'ils veulent, qui choisisse quelqu'un. Parce qu'en fait, le juge qui est décédé il y a quelques semaines, Scalia, était en fait un juge, si on veut, plus républicain. C'était vraiment, un grand allié des républicains dans la Cour suprême. Et donc, c'est une énorme perte pour eux. Et le fait de le voir remplacé par quelqu'un qui serait plutôt démocrate, si on veut, ça changerait un peu l'équilibre au sein de la Cour suprême.
Waouh, ok. D'accord, ben écoute. Donc, quand est-ce qu'on est censé en savoir plus? Est-ce qu'il y a une date, une date où est-ce qu'on saura exactement qui est nominé, qui est appointé ou pas? Ou c'est, on
attend? Non, il n'y a pas de date, il faut juste attendre de voir comment
cette
histoire progresse au fur et à mesure, au fil des semaines.
Ok, ben on attend alors de voir ça impatiemment, puis on compte sur toi, Alison, pour nous tenir au courant. Sinon, il y a autre chose dont tu nous parleras aujourd'hui, c'est la candidature de Rubio. dont tu nous avais parlé la dernière fois.
Marco Rubio, qui... il y avait tout un phénomène autour de lui, hein, que la presse avait surnommé Rubiomania, parce que tout le monde disait qu'il avait ses chances. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément vrai. Mm-hmm. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le mardi 15 mars, il y a eu des primaires plus particulièrement dans son état, l'état de la Floride. Mm-hmm. Et c'est Donald Trump qui a remporté les primaires en Floride, c'est pas Marco Rubio.
Wow.
Voilà. Donc, de perdre, si on veut, dans son état d'origine, c'est jamais bon signe. Et c'est à cause de ça qu'il a décidé qu'il allait arrêter, qu'il allait plus continuer donc, dans cette course à la présidentielle. Et donc, là, il est retourné en Floride, où il est sénateur, hein, c'est ce qu'il fait. Donc, il a repris le train-train du quotidien. Il a annoncé que, normalement, il est en poste pendant les 10 prochains mois, mais il a annoncé qu'après ça, il veut pas être vice-président, il veut pas être gouverneur de la Floride, il veut juste redevenir Marco, la personne normale.
Ah oui. Waouh, c'est impressionnant ça, parce qu'en plus, à la dernière chronique, tu nous disais que lui, il était presque convaincu de gagner l'état de la Floride.
Oui, il était convaincu que c'était pour lui, quoi, parce que c'est son état, il n'y avait pas de raison qu'il ne gagne pas. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je pense que Donald Trump a eu environ 46% des voix et Marco Rubio n'en a eu que 27. Donc c'est même pas dire qu'il a perdu de près, il a vraiment perdu de presque 20% d'écart. Et donc c'est pour ça, il avait pas d'autre choix que de démissionner. Donc du coup, il reste plus que 3 candidats du côté républicain.
Wow. Est-ce que tu peux nous rappeler leur nom?
Bah oui, alors il y a le fameux Donald Trump qui est toujours en tête. En deuxième position, il y a Ted Cruz. Et puis, il y a également John Kasich qui est en troisième position. Si on regarde un peu vers l'avenir et les prochaines étapes pour ces primaires, on va dire que cette semaine, c'est un peu le calme après la tempête. Hein. Ça fait quelques semaines qu'il y avait énormément d'états en jeu. Tous les mardis, il y avait même un samedi où il y avait beaucoup d'états en jeu. Ça s'appelle les Super Tuesday, Super Saturday. Mmh. Là, on peut dire officiellement que plus de la moitié des états américains ont voté. Donc là, c'est l'accalmie un petit peu au cours des prochains jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté républicain, en tout cas, le fait que Trump ait remporté la Floride et tout ça, ça ne lui garantit pas pour autant une victoire ou une nomination assurée. Mmh. Il y a encore pas mal de boulot à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les dernières statistiques, s'il continue avec le même succès qu'il a en ce moment, il pourrait avoir la nomination, mais vraiment de justesse.
Hein, de justesse. Juin.
Ok. Ouais. Mais ça, c'est si tout continue au même niveau. Si les choses vont moins bien pour lui, ce qui pourrait se passer, c'est que lors de la convention républicaine qui se passerait donc au mois de juillet, si je me trompe pas, ils ont annoncé que ça serait le week-end du 18 au 21 juillet. Mm-hmm. Si Donald Trump n'a pas assez de délégués, hein, puisque à chaque fois qu'on remporte un État, on remporte des délégués, s'il n'en a pas assez, ça serait une convention contestée. Et lors d'une convention contestée, tout peut changer. Et n'importe qui peut devenir le nominé, même quelqu'un qui n'a pas participé lors des primaires.
Waouh! Eh bien, dis donc. Donc, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas, en fait, il n'est pas à l'abri, là, jusqu'à ce qu'il soit élu, enfin, jusqu'ici, il l'est. Il y a toujours, en fait, des chances de rebondissement, de changement de.
Exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que Rubio ne fait plus partie. A décidé qu'il n'allait plus participer aux primaires. Il y a beaucoup de gens qui votaient pour Rubio, qui auraient voté pour Rubio, qui doivent voter pour quelqu'un d'autre maintenant. Mm-hmm. Donc, ça pourrait être quelque chose d'avantageux pour Trump. Mm-hmm. Ça pourrait aussi être quelque chose d'avantageux pour Cruz. Mais dans tous les cas, la seule personne, en fait, qui pourrait avoir la nomination, c'est Trump. Et ça, c'est pas garanti à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de cette convention contestée qui pourrait se passer au mois de juillet.
Waouh, ok. Donc on attendra impatiemment, puis on attend aussi les nouvelles d'Alison pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe là. Ça donne presque mal à la tête, tous ces changements, ces rebondissements, tout ça. Mais heureusement, Alison nous explique tout ça très clairement. Bah, merci beaucoup, Alison.
Il n'y a pas de problème, ça m'a fait plaisir.
Pareillement. On reste, nous, sur les ondes de Choc FM 105.1.